Eugène Dupuis, La légende de l'automate, conte fantastique. Ce n'était un mystère pour personne que le savant allemand Hans Müller avait vendu son âme au diable afin que celui-ci lui donne le temps. Il était sexagénaire, ainsi que les moyens, car il était pauvre comme un savant trop préoccupé de travailler à faire sa fortune des autres pour s'occuper de la sienne. De mettre à exécution un projet aussi orgueilleux que mirifique, la construction d'un automate de 1500 pieds. Environ 500 mètres de hauteur, avec comme piédestal la plus haute montagne du globe. Et pourquoi, me direz-vous, Hans Müller avait-il eu cette orgueilleuse idée? Oh, tout simplement, afin que son nom, dont il voulait baptiser le colossal jouet, sorti de son imagination, se perpétue de siècles en siècles, domine le cataclysme final prévu par les Saintes Écritures et reste seul en face du nom sacré de Dieu pour témoigner d'un génial talent de créateur et parrain de l'automate. Je suis forcé de passer sous silence les détails de la construction de cette œuvre unique dans les fastes de la mécanique, pour la raison très plausible qu'ils ne sont pas parvenus jusqu'à moi, et vais vous faire donc franchir d'un bond les 40 années nécessaires à l'exécution de l'œuvre de Hans Müller. Un an avant le jour de l'inauguration de l'invention grandiose du vieux savant, une trompe magique informa l'université du globe de sa terminaison, invitant le monde entier à venir contempler et entendre l'œuvre du glorieux Müller. Et du pôle arctique au pôle antarctique, de la Mecque à fin fond de l'Irlande, on ne voyait que caravanes compactes de curieux se rendant vers le spectacle auquel ils étaient conviés. Et aujourd'hui, des milliards d'individus des deux sexes, de toute nationalité et couleur, se trouvèrent réunis au pied de la montagne, contemplant avec admiration la colossale conception du maître. Et parmi les milliers de races qui se coudoyaient en ce jour mémorable, la race anglo-saxonne était facile à reconnaître, car elle était déjà en proie à cette époque à la manie touchante consistant chez ses enfants à emporter en voyage un petit marteau de poche afin de pouvoir détacher un souvenir des monuments qui ont eu la malchance de susciter son admiration. Mais revenons donc à mon récit, que je reprends du moment où Müller parut au pied de la statue automate. Une immense et assourdissante acclamation salua le début de son ascension, laquelle ne dura pas moins de 3 heures. Car il lui faisait gravir plus de 5 000 échelons pour l'atteindre à la hauteur du cou. Arrivé au terme de son véritable voyage, il jeta un orgueilleux regard sur la fourmilière humaine qui l'entourait, simulant ainsi un immense plat de lentilles dont la montagne, ainsi que la gigantesque statue qui la décorait, semblait le morceau de résistance. Puis il brandit sa trompe et demanda qu'un assistant veuille bien presser sur le bouton numéro 1, lequel se trouvait au milieu de l'inscription placée sur le bas-côté de la face, et cria ensuite, toujours à l'armée de sa trompe magique, Silence! L'automate va parler! Et l'un des assistants, ayant fait ce qui lui avait été demandé, l'automate parla ainsi. Je suis la conception géniale et immortelle de l'illustre savant Miller. Je chante, crache et pleure et ris. Je joue à n'importe quel jeu. Je bois et je mange en digérant liquides et aliments. Je suis de plus construit de manière à défier les siècles à venir. L'ennui qui me recouvre me rendra à tout jamais invulnérable aux intempéries des saisons, me permettra de supporter les assauts du soleil et de la pluie, lesquels, grâce à lui, n'auront aucune prise sur moi. Enfin, et pour vous bien démontrer que mon génial créateur a songé à tout, je suis apte à répondre victorieusement à ceux qui, humiliés et jaloux de l'œuvre de mon créateur et parrain, voudraient le ridiculiser, lui qui, atteignant jusqu'à la hauteur de ma tête, me souffletterait. Qu'une mort horrible soit la punition de son insulte. Quant à ceux qui tenteraient de détruire ma personne inanimée, je les informe que cette tentative entraînerait la mort immédiate de son téméraire auteur. J'ai été créé pour être immuable, et nul être au monde. Même mon génial créateur ne pourrait annihiler mon caractère d'immutabilité. J'ai dit, les milliards d'individus qui avaient entendu cet arrogant discours étaient munis de milliards de paires de mains, sauf les manchots. Cependant, ne garantit pas qu'il n'en s'attrouva pas pour 2 ans. Les milliards de paires de mains se choquèrent l'une contre l'autre avec frénésie et leurs propriétaires lancèrent vers la montagne d'immenses clameurs parmi lesquelles on distinguait les cris de Vive Miller! Hurrah pour Miller! Gloire à l'immortel automate! Miller, devant cet accueil fait à son œuvre, se cramponna à l'automate, tant il était ému. Puis, un moment après, lorsque son émotion fut un peu calmée, il voulut mettre les milliards de paires d'oreilles à ses admirateurs en délire et cria dans sa trompe, avant de presser le bouton nécessaire, « L'automate va chanter !» Un éclat de rire monstre salua la deuxième démonstration des talents du merveilleux jouet mécanique. Il y avait de quoi, car Miller, encore profondément ému des acclamations de la multitude, s'était trompé de bouton, ce qui avait eu pour résultat de lui faire cracher une douche de 100 litres d'eau en plein visage. Son émotion, très compréhensible, le sauva, car tenant encore convulsivement les échelons qui permettent d'aller de la haute base au faîte de son automate, il put tenir tête à la trombe d'eau qu'il recevait. Mais si sa vie était sauve, il n'en était pas de même de son honneur. « Damnation !» hurla-t-il. Et fou de rage de l'insulte que son œuvre, sa chose, lui avait prodiguée, devant des milliards d'individus, il perdit la tête et il la souffleta. Un formidable cri d'horreur monta vers les nues, car les deux mains de l'impeccable automate se rejoignirent inexorablement, enserrèrent le corps du créateur de l'implacable jouet avec une telle force qu'un flot de sang inonda son œuvre tout entière. Ensuite, l'une de ses mains, la droite, à laquelle amèrement adhéraient des lambeaux de chair palpitante, encore s'abaissa lentement le long de son corps, tandis que l'autre rejetait loin d'elle avec un geste aussi dédaigneux que méprisant un tampon sanguinolent représentant combien piteusement tout ce qu'il restait de l'illustre imbécile qui avait vendu son âme, condensée au profit d'une seule œuvre, les manifestations multiples de son génie, sacrifié les 40 dernières années de son existence pour se confectionner un instrument de supplice aussi inédit que personne n'elle. Il est facile de deviner que l'innombrable multitude s'enfuit épouvantée, car elle ne se soutient nullement d'entendre la funèbre envoi de l'automate afin de lui servir d'inutile parachute. Le ciel, qui n'avait pas encore dit son mot, Bétonnet approuvait son aversion pour le bruit, ce qu'il ne manqua jamais de faire. En dérangeant le climat des pays qui ont fait parler la poudre, le ciel se mit de la partie en déchaînant un épouvantable orage au cours duquel un formidable courant de fluide électrique déchirant les plus se dirigea incontinent vers l'automate, lequel, n'étant plus protégé par l'invention de Franklin, le paratonnerre, le savant, n'existant pas encore, fut pulvérisé au point qu'il serait impossible de découvrir l'emplacement qu'il occupa sur la surface du globe. Moralité, ce conte vous prouvera, sans aucune espérance, que vous profiterez de la leçon qu'il contient. Bien entendu, qu'il ne faut jamais élever ou contribuer à élever un être au-dessus de soi, car c'est la plupart du temps se donner un maître, si ce n'est un bourreau, qu'agir ainsi soit-il.